Retour sur le festival L'Autre Cinéma à Arras. L'un des invités d'honneur de cette édition 2007, c'était le cinéaste polonais Andrzej Zulawski. Une rétrospective lui était consacrée avec les projections de films comme L'importance est d'aimer, La fidélité, Le diable ou encore La troisième partie de la nuit. Andrzej Zulawski, invité à donner une leçon de cinéma, ça se passait à l'université d'Artois. C'était animé par Jean-Luc Douin, qui est journaliste au Monde. Et si vous n'étiez pas là, on vous en propose aujourd'hui de larges extraits.
Je viens d'une famille où tout le monde ou écrit des bouquins, ou peint des tableaux, ou compose de la musique. Nous sommes 9 ou 10 dans l'encyclopédie polonaise, le Larousse polonais si vous voulez. Donc il m'était un tout petit peu plus facile, je pense, depuis la fin de la guerre en tout cas, de penser à ces disciplines-là que de me dire que je vais faire des chaussures. J'aurais adoré faire des chaussures, je trouve. Venant d'un pays pauvre, la chaussure est pour moi une chose extrêmement importante. Quand nous vivions sous le communisme et nous avions la chance de partir à l'étranger, qu'est-ce qu'on ramenait ? Des chaussures. Parce que les nôtres étaient en carton-pâte et elles tombaient en miettes avec la première pluie. Donc j'aurais aimé être cordonnier, ça ne s'est pas fait. Et donc, en quelque sorte, vivre dans un monde, une famille dans laquelle on parle beaucoup plus de Thomas Mann que de je ne sais pas quoi, et d'Orson Welles que de je ne sais pas quoi, était une espèce de voie naturelle pour moi. Et je ne le savais pas, je ne le comprenais pas comme ça. Je l'ai compris quand j'ai vu, à 15-16 ans, quelques films. Quand je sortais de l'enfance, je devenais adolescent un peu, et dans une Varsovie vraiment, croyez-moi, sinistre du temps du communisme, ensanglantée, terriblement dangereuse, je dirais, pour les gens qui pensent, eh ben, j'ai vu quelques films, j'ai vu Génération de Vaïda, j'ai vu Hamlet de Laurence Olivier, des trucs totalement disparates. Et je me suis dit, s'il existe au monde des gens qui peuvent faire ça, qui peuvent m'atteindre de cette manière-là, indépendamment du sujet, du propos, mais tout simplement parce que ce qu'ils font a une force, une beauté, une, je ne sais pas comment appeler ça, c'est comme une rivière qui vous emporte dans les... Eh bien, je veux être parmi eux. J'ai envie d'essayer ça. Et donc, je crois que ça a commencé tôt, ça a commencé avant le bac. J'avais 15-16 ans et je me suis dit, je veux faire du cinéma. Et comme par hasard, mon père, qui était écrivain, poète, tout ce que vous voulez, sauf fonctionnaire, a été nommé à l'UNESCO à Paris en 1956. Je suis allé faire mon bac à Paris en 1956. Et comme j'étais un enfant plutôt malingre qui sortait de la guerre en assez mauvais état, parce que nous avions absolument rien à bouffer, enfin c'était... Bon, bref, mes parents ont refusé. Quand je disais « je veux aller à l'école polonaise de cinéma de Łódź », vous dites « Lodz » ici, je crois. Tout le monde est sorti de Lodz. Ouais, hein, Wajda, ouais. Polanski, Skolimowski, Kieślowski sont tous sortis de Lodz. Ben, ils m'ont dit « tu n'iras pas là-bas ». Et ils avaient raison, parce que jamais, étant chétif, je n'aurais supporté la dose massive de vodka qu'on imbibait chaque soir dans cette fameuse école. Ce qui ne m'a pas empêché d'obtenir pour le premier film que peut-être certains d'entre vous auront la gentillesse de regarder ce soir, d'obtenir le prix de l'école, le prix Andrzej Munk, ça m'a beaucoup flatté, j'ai pas fait l'école, j'ai obtenu le prix, et j'ai fait une école française qui s'appelle l'IDEC, qui avait un seul mérite, c'est qu'on n'y produisait pas des génies. C'est-à-dire, c'était pas l'école où, n'est-ce pas, nous allons sortir pour faire la révolution du cinéma mondial, c'est une école très technique, on apprenait à tout faire, sauf à beaucoup penser. Alors j'ai pensé par moi-même, et l'école m'a appris, et j'ai eu un diplôme par exemple de monteur, j'ai monté des films américains quand j'ai été expulsé de Pologne pour la première fois, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'était un enseignement purement technique, leur idée c'était qu'on vous parachute au pôle Nord avec une petite caméra à l'époque, avec un ressort, une Bell & Howell, qu'on remontait comme ça, et ben vous allez faire un film, en plus vous allez mettre les trucs chimiques qu'il faut pour le tirer, et puis vous allez le monter, et puis vous allez le montrer, et vous ferez même le son. Et c'est une chose qui me manque énormément dans l'enseignement, dans la scolarité des jeunes qui veulent faire du cinéma, c'est qu'on leur apprend d'abord d'être absolument géniaux et ensuite la technique. Or, le cinéma est à 99% une technique. et à 1% une âme. Et c'est à peu près ce qui nous arrive à tous. On est à 99%, même cette jolie dame là qui regarde son appareil photo, 99% physique et 1% âme, et c'est déjà vraiment beaucoup. Pardon, madame. C'était pas contre vous. Voilà. Donc j'ai commencé très très tôt pour répondre à ta question, à penser à ça, oui.
Andrzej Zulewski, qui a débuté comme assistant d'un autre Andrzej, le réalisateur polonais Andrzej Wajda.
Ce que m'a appris cette collaboration avec cet homme tout à fait étonnant qu'est Andrzej Wajda, ce n'est pas du tout la technique du cinéma. Je pense que je la possédais en quelque sorte déjà. Je n'ai pas fait des études pour rien. Mais c'est une sorte de réflexion sur pourquoi on fait des films. Qu'est-ce que c'est que la morale de cette affaire? Pourquoi on se réunit à 5 heures du matin sur un plateau, tous pleins de bonne volonté, certains pour du fric, d'autres... Et pourquoi veut-on absolument, avec cet acharnement total, faire ce truc, cette œuvre, ce cinéma? Et comme lui a toujours jonglé, Wajda, avec les autorités successives, très communiste pendant un temps, un peu moins communiste par la suite, et tout à fait pas communiste maintenant, mais il a toujours... Il a une sorte de talent politique que je n'ai pas. Moi, je me suis fait enfourner plusieurs fois. J'ai fait des films pas possibles. Je me suis fait éjecter de mon pays. Lui, non. C'est une leçon de choses. Je ne suis pas tout à fait sûr de vouloir la suivre. Et c'est pourquoi j'ai arrêté de travailler avec lui.
Mais alors, oublions, mettons Wajda de côté. Est-ce que tu te sens une quelconque solidarité avec une certaine génération de cinéastes polonais?
Non. Non, parce que cette génération de cinéastes polonais, dont Kieślowski, Agnieszka Holland, d'autres que vous connaissez peut-être moins, ou pas du tout d'ailleurs, ont été très influencés par l'attitude justement de Wajda, qui disait que le cinéma est en fait une sorte de lutte politique contre les pouvoirs. Je ne pense pas du tout ça. Et curieusement, ces gens-là n'ont jamais été répressionnés, et moi j'ai été foutu à la porte de la Pologne communiste 2 fois. Pour des films qui ne sont pas comme eux pensaient qu'il fallait être. Alors qui en a pris plus et qui a fait des choses qui sont plus menaçantes pour ces fameux pouvoirs de torture, de meurtre, d'assassinat, d'horreur que nous avons vécu? Eh bien, plutôt mes films. Et je ne le dis pas parce que je le pense, je le dis parce qu'on me l'a fait subir. Donc je ne pense vraiment pas comme eux et je ne suis absolument pas solidaire avec leur démarche. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont fait des films médiocres. Et ça, c'est le plus grand péché. Pensez ce que vous voulez, mais faites bien. Leni Riefenstahl, qui était un monstre politique, a fait des films magnifiques. Eh bien, au moins, les films sont magnifiques.
Alors, on va peut-être les trouver hors les frontières de la Pologne. Quels sont tes maîtres? Quels sont les grands cinéastes qui t'ont influencé ou que tu as rêvé d'égaler à l'époque où tu commençais à faire du cinéma et même peut-être encore aujourd'hui?
Oui, je retiens surtout la fin de ta question parce que comme je disais tout à l'heure, tout cela fluctue. Et quand j'avais 19 ans, quand je voyais un film de Kurosawa comme Le Château de l'Araignée, c'est-à-dire en fait Macbeth, j'avais 40 de fièvre, je sortais absolument ivre-mort de cinéma de la salle. C'était sublime, c'était une leçon de choses, à la fois de pensée, de comment on fait un film, qu'est-ce que c'est que du cinéma. Je n'ose même pas le voir aujourd'hui. Par crainte que ça soit un sentiment du temps. Kurosawa, Fellini, Bergman, après 11 mauvais films, le 12e splendide pour moi, La Nuit des Forains, et puis une suite de films extraordinaires, Peckinpah, un metteur en scène que j'adore totalement, et là encore aujourd'hui, tu vois. Parce que Bergman, je ne suis pas sûr de pouvoir les revoir, mais Peckinpah quand tu veux. La Horde Sauvage, anytime, demain, ce soir. Non, pas demain, parce qu'il y a le match Pologne-Belgique au foot qui est beaucoup plus important que tout ça. Wajda dans ses premiers films, oui. Curieusement, regarde, Laurence Olivier, qui n'a fait que 3 films, et ce sont 3 chefs-d'œuvre absolus du cinéma, pour moi. John Ford, dans une hargneuse modestie de tout ce qu'il a fait. Mais My Darling Clementine, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, d'ailleurs. Henry Fonda.
La poursuite à faire.
Ah bah évidemment, oui. L'arrière-train sifflera 3 fois. Ça, c'est le génie français de mettre des titres insensés à des films très bien.
Orson Welles, non.
Écoute, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous avons tous été, tous les cinéastes du monde, nous avons en quelque sorte changé d'avis sur le cinéma en voyant Citizen Kane. Mais ça a été tellement assimilé, copié, ça se retrouve dans tant de films qu'on ne sait plus où est la source. C'est très compliqué. Et les films qu'il a fait étant éjectés d'Hollywood sont des films quand même, malgré des splendeurs et des grâces, ce sont des films mineurs et qui racontent d'habitude des conneries, comme Mr. Arcadian. C'est magnifique à regarder, mais qu'est-ce que c'est bête.
Est-ce que tu pourrais, en citant par exemple une scène d'un des cinéastes dont tu viens de parler, dire qu'est-ce que c'est que la mise en scène ?
Ah, c'est une colle, parce que si la mise en scène ce sont des scènes, nous sommes au théâtre. Je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas qu'une scène définisse un film. Je pense à bon nombre de films où il n'y a pas de scène du tout, apparemment, comme les films de Woody Allen. Il y a un flow. Et c'est d'une intelligence et d'une drôlerie insurpassable. C'est magnifique. Et en tant que metteur en scène, Woody Allen, est-ce que c'est vraiment un grand metteur en scène ? Je m'en fiche.
Enfin, je dis scène, ça peut
cabaret.
Être.
Je ne sais pas. Ouais. Et quand il a essayé de faire de la mise en scène dans ses films sérieux, soi-disant, c'est nul. Mais quand il nous fait rire, c'est génial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement une scène ? Je ne sais pas. Les films qui se laissent découper en scène me laissent un tout petit peu. Je soupçonne quelque chose qui ne va vraiment pas dedans. À moins que vous ayez un avis contraire.
Je prends ça comme une dérobade.
Non.
Donc, ton premier long métrage, c'est La troisième partie de la nuit, tourné en 1970, si je ne me trompe pas. Pourquoi choisis-tu le thème de ce film ? Quelle est la genèse de cette histoire ?
Je ne vais pas vous ennuyer, parce que la genèse est longue. Elle est à la fois, encore une fois, socialo-politique, comme tout ce que nous vivons tout le temps, on le veut ou le pas. C'est comme, qu'est-ce qui cause là ? Je ne m'entends plus. D'ailleurs, je n'avais rien à dire. Donc, ce qu'il y a de politique dans ces films, si vous voulez, c'est que je l'ai fait en 1970, à une époque où on nous expliquait, par truchement de films à gros budgets nationaux faits par le Parti communiste polonais, que c'était les communistes et l'armée rouge qui ont gagné la guerre, Deuxième Guerre mondiale, que c'est eux qui ont souffert le plus, que c'est eux qui ont tout fait pour que la Pologne existe, et la France d'ailleurs aussi, et tout le monde. Bon. C'est faux. 350 000 soldats en armes clandestins, donc de la résistance polonaise, c'était de l'obédience. Vous avez eu, vous, le général de Gaulle à Londres, nous, on a eu un gouvernement polonais à Londres pareil, qui était donc la suite du gouvernement d'après-guerre, entre les deux guerres. Bon, bref. Les communistes, c'était environ 10 à 12 000 hommes en armes, et encore plutôt s'occupant à piller des pauvres contrées démunies que de faire quoi que ce soit. Donc c'était faux. Mon père a fait de la résistance à très haut niveau. Le premier but, il y en a eu trois, le premier but de ce film, c'était de dire, attendez, arrêtons ce mensonge, ce qu'on appelle bêtement l'intelligentsia, c'est-à-dire les étudiants, les profs, les écrivains, les poètes, les musiciens ont fait cette résistance. Et il y a eu 6,5 millions de morts en Pologne pendant la guerre sur une population de 31,5 millions avant la guerre. Donc calculé, un Polonais sur 5, pouf, tué par les Allemands ou par les Russes. Bien. Et qui, sociologiquement parlant, était la couche la plus touchée ? L'intelligentsia, les gens qui ne savaient pas tuer, tirer, mais qui travaillaient de leurs plumes, de braves fonctionnaires parfois, ou surtout universitaires. Bien. Alors, le premier but de ce film, c'était de raconter cette histoire-là, eux. Eux qui disent, quand il faut tuer, ben, un monsieur a un pistolet entortillé dans une espèce de chiffon engraissé, il ne sait pas faire, ils ne savaient pas faire, ces gens. Ils n'étaient pas éduqués pour ça. Vous n'êtes pas éduqués pour tuer. C'est pareil. Bien, première raison, donc contre tout. Hein. Deuxième raison, coup de chapeau à mon père et à sa génération, parce que l'histoire qui est racontée dans le film, c'est l'histoire de gens qui vont chaque matin, d'ailleurs envoyés par la résistance, dans un institut allemand qui fabrique, je ne veux pas vous emmerder, mais un vaccin contre le typhus. Il n'y a pas eu de typhus pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que pendant la Première, il a décimé la moitié de l'Europe. Bien. Or, les poux, étant des animaux extrêmement délicats et fragiles, ne supportent que la peau humaine et le sang humain pour se nourrir. Donc, ces gens-là arrivaient le matin, ils se mettaient 50, 100 000 poux dans des petites cages comme ça, avec une paroi en soie qui touchait la peau, et les poux les bouffaient. Et donc, mon père me racontait que le matin, il avait 35 degrés de fièvre, puisqu'il était contaminé. À midi, il en avait 41, et le soir, il s'effondrait. Bon. Donc, il a vécu cette espèce de période horrible de l'occupation allemande. Il m'a dit que c'était un rêve. Je planais, c'était LSD, c'est du petit lait à côté. Bon, raconter cette histoire me paraissait vital. Et troisièmement, dans un pays où le cinéma était, dans le meilleur des cas, médiocre, je voulais faire vraiment un film. Mais vraiment un film, avec tout ce que je sais faire, je supposais que je sais faire, où mettre une caméra, comment filmer, comment, voilà, que ça soit totalement différent de cette espèce de caca-pipi qu'on nous servait sur les écrans. Donc ça, c'était plutôt un mouvement d'orgueil, le dernier. Les deux premiers, je pense, étaient des mouvements de humilité vis-à-vis de ce qui s'est passé. Eh bien, ça s'est conjugué en un film qui était terriblement attaqué par les gouvernements, mais comme il est allé à Venise, où il a eu un prix, il est allé partout dans le monde, bon, bref, ça n'a pas été très, 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 très répressif vis-à-vis de ce film-là. Ça a été répressif sur le suivant.
On va lancer bientôt l'extrait, mais peut-être avant, juste avant qu'on lance ce premier extrait de ce film, je crois que tu es convenu que chacun de tes films, je ne sais pas si c'est le cas d'absolument tous, mais la plupart en tout cas étaient... provenait d'une sorte de blessure personnelle, ou en tout cas d'épisodes de ta vie. Donc est-ce que c'est en particulier le cas de celui-ci, et si ce n'est pas rentré dans trop d'intimité, de quelle blessure s'agit-il ?
De quel film parles-tu ?
De la troisième partie de la nuit.
Écoute, pendant la troisième partie de la nuit, dans la réalité des choses, c'est-à-dire les années 40, j'étais comme ça, il y a d'ailleurs un petit garçon dans le film. Qui est un figurant. Donc je ne peux pas dire exactement que ça soit une partie de ma vie, c'est une partie de ma vie transposée à travers l'histoire de mes parents, de leur génération, de gens que j'aimais infiniment, des gens d'un courage. Tu sais, mon père comme ma mère était dans la résistance, mais c'était tellement clandestin que l'un ne savait rien de l'autre. Ils se sont rencontrés par hasard en 1945 dans une cellule. Ils se sont dit, mais toi aussi, ah bon. Des gens remarquables. Donc je ne peux pas dire que ça soit exactement un autofilm, un autoroman, un automachin. Mais par contre, ça me touche, oui. Ça me touche puisque je souscris très volontiers à cette phrase de Goethe qui disait que lui, la seule chose qui l'emmerde profondément, c'est que quand des gens parlent, comme je faisais tout à l'heure, en suçant leur pouce, de choses qu'ils ne connaissent pas. J'espère parler de choses que je connais intimement. Ce qui ne veut pas dire que je dresse, ce qui ne veut pas dire, et encore une fois je reviens à ce que nous avons dit au début, je ne pense pas être assez intelligent, intéressant, beau, bien, plein de trucs, pour qu'on fasse un film de moi, que je fasse. Non, mais une partie, oui. Une partie qui se conjugue à d'autres parties. C'est-à-dire que nous tous ensemble, nous faisons un héros peut-être un peu plus collectif, mais un peu plus intéressant. Donc oui, ça touche ce que je sais, sinon je ne ferais pas le film. Mais non, ce ne sont pas des films autobiographiques.
Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité.
Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité.
Je me souviens que, enfin, avoir lu dans un texte de Victor Hugo cette interrogation, il s'emportait contre les gens qui prônaient la sobriété et il disait, est-ce que c'est une qualité pour un artiste ou une vertu pour les domestiques ? Et je me souviens aussi qu'il y a quelques années, tu m'avais dit qu'un vrai film doit laisser pantelant.
Je le pense encore. Et je pense que c'est un miracle que mes films soient encore aussi vivants dans le monde entier maintenant, après tant d'années, parce qu'ils ne sont peut-être pas assez vivaces encore. Mais c'était vraiment difficile d'en faire plus à l'époque. Et tu le sais. Bien.
À chaque fois, confrontation entre le bien et le mal. On peut dire que tous tes films sont des fables morales. Il y a un point d'interrogation.
Oui, c'est un point d'interrogation. Voilà. Là, encore une fois, je ne veux pas vous ennuyer, mais quand je disais que le truc que j'avais retenu de ces années avec Andrzej Wajda, c'était là une espèce de question fondamentale, pourquoi fait-on des films ? D'un côté, il faut les faire avec assez d'énergie et de grâce pour que ça emporte l'adhésion de gens qui doivent regarder ce truc comme si, voilà, ils sont emportés. Ça s'appelle un spectacle. De l'autre côté, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire par là, n'est-ce pas ? Et dans le qu'est-ce qu'on veut dire par là, il y a des choses qui rejoignent notre vie à tous, de tous les jours, tout simplement. On sait qu'est-ce que c'est que le bien, parce qu'on fait traverser la rue à une dame aveugle de 70 ans avec sa petite canne, parce que c'est un mouvement naturel, n'est-ce pas ? Mais lui faire un croc en jambe, c'est quoi ? Et pourquoi parfois on le fait ? Et qui le fait ? Je vous remercie. Donc, ce qu'on appelle, en généralisant terriblement, le mal est une chose qui est au moins 50% de notre existence, en tout cas qu'on fréquente. Le mal politique, le mal biologique. Pourquoi mange-t-on ces pauvres poulets ? Enfin, qu'est-ce qu'ils nous ont fait de mal pour qu'on les mange ? N'est-ce pas ? Ben, c'est nous le mal, c'est pas eux le mal, etc., etc., etc. Mais si on ne mange pas des protéines, on dépérit. Alors, où c'est quoi la balance ? Et ces questions-là, si on ne se les pose pas sans arrêt, sans savoir exactement, et c'est mon cas, on n'y répondra jamais. Parce que nous sommes comme la carotte dans une énorme soupe qu'on essaie de s'exprimer sur le cuisinier. C'est difficile. Est-ce qu'il y a un cuisinier, d'ailleurs ? Bien, néanmoins, c'est une chose présente, agressive plus ou moins, mais sans arrêt, vivante et qui accompagne notre vie. Comment ne pas en parler ? Je ne comprends pas. Donc, oui, on en parle. Seulement, il y a encore plusieurs façons d'en parler. Ou bien on l'occulte. John Wayne, qu'on a cité, qui tue 25 Indiens sans avoir le moindre remords, c'est une formule. Quelqu'un qui se mortifie en fumant 40 paquets de cigarettes par jour et buvant 3 litres de vodka et faisant des films qui s'appellent Les 10 commandements et qui est polonais, essaye de me rendre plus moral que je ne l'ai été quand j'étais... comment on appelle les petits... Tu sais, ceux à l'église qui sonnent les clochettes là, pendant la messe, les... Les enfants de cœur, voilà. J'ai été enfant de cœur. Je ne le voulais pas, mais ma grand-mère y tenait. Bon. Est-ce que c'est une façon ? Moi, j'essaye de dire des choses que j'espère être propres, claires et morales, mais sans jamais faire de leçons, sans jamais moraliser. C'est-à-dire, je préfère filmer le tunnel dans lequel on passe pour voir la lumière au bout. Tiens, comme là, cette porte, que je regarde depuis tout à l'heure, d'ailleurs. Ça, c'est un mouvement que je comprends, mais on n'y échappera jamais. Aucun écrivain du monde n'a échappé à ce dilemme et aucun n'a résolu une question qu'on ne peut pas résoudre. On peut juste essayer de l'illustrer. Moi, je préfère l'illustrer par des petits exemples. La vie de quelqu'un, un verre d'eau, une scène où on se débat dans une cuisine entre Isabelle Adjani et Sam Neill, par exemple, que de raconter des trucs gigantesques et épatants. Donc c'est ma façon de faire.
Et dans le tunnel qui arrive jusqu'à la lumière, où est Dieu ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce que l'ancien enfant de cœur a gardé une notion de Dieu ?
Pardonne-moi, tu sais, c'est comme le sexe. Dieu et le sexe, je n'en parle pas.
Oh oh oh. André Zulaski au micro de Jean-Luc Douin, c'était lors de cette leçon de cinéma organisée à l'Université d'Artois, lors du festival L'Autre Cinéma en novembre dernier. Vous retrouverez l'intégralité de la conférence, si tout se passe bien, sur le www.radiopfm.com. Un grand merci au passage à Boris pour l'enregistrement.
Écoutez-moi. Je ne suis ni une victime, ni une prisonnière. Ma vie est ce qu'elle est, même si elle ne vous semble pas très brillante. Et pour tout vous dire, le fantôme de la dernière pièce que j'ai jouée il y a 6 ans, je l'ai épousé. Et je l'aime.